Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère. C'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Allô, allô! Bienvenue à cet épisode du mois de juillet. J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager une entrevue que j'ai faite avec Dominique Lamontagne. C'est une entrevue qui a été repoussée d'au moins un an à cause de la COVID, mais la voici enfin. Donc moi, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous la présenter. Puis pour vous mettre en contexte un petit peu, si jamais vous ne connaissez pas Dominique, en fait, lui a été connu principalement à cause de son livre « La ferme impossible », qui est en quelque sorte un plaidoyer pour l'agriculture à échelle humaine. Parallèlement à ça, il s'est installé un projet d'autosuffisance à Sainte-Lucie-des-Laurentides et il s'investit dans la promotion de l'autonomie alimentaire et de la gastronomie responsable. En fait, ce qui est vraiment cool avec Dominique, c'est qu'il y a certains éléments sur lesquels, en fait, on a un point de vue qui diffère. Donc lui, il a vraiment un point de vue que l'autosuffisance, en fait, c'est le but premier, puis que d'aller chercher un revenu d'appoint, disons, le revenu minimum dont on a besoin pour vivre, c'est ça, en fait, le seul objectif financier, en quelque sorte. Puis vous pourrez peut-être interpréter de façon un petit peu plus subtile ses propos, là, disons que là, j'essaie de vraiment synthétiser. Alors qu'avec notre modèle de ferme, ben nous, c'est quand même différent. C'est le but premier, en quelque sorte, c'est d'arriver à vraiment combler des besoins financiers peut-être un peu plus importants. Puis d'avoir, disons, un commerce vraiment. Puis en second lieu, d'aller peut-être chercher un aspect plus autonomie alimentaire complémentaire. Donc, c'est comme en quelque sorte des points de vue qui se ressemblent, mais qui sont un peu dans le cheminement inverse l'un de l'autre. Puis c'est pour ça, en fait, que je voulais m'intéresser à ce que Dominique a à dire. De quelle façon est-ce que le maraîcher qui commercialise ses produits en arrive à pouvoir diversifier sa propre autosuffisance alimentaire? Puis c'est à ce genre de réponse-là auquel j'ai essayé d'arriver avec lui. Fait que j'espère que ça va vraiment vous intéresser. C'est une entrevue qui se situe entre l'espèce de petit débat philosophique, disons, et les conseils pratico-pratiques sur qu'est-ce qui serait possible d'essayer, quel genre d'expérimentation on pourrait faire, dans quelle étape, qu'est-ce qui serait logique ou pas de faire pour nous, les maraîchers, qui avons quand même beaucoup de ressources autour de nous pour peut-être atteindre une plus grande autonomie alimentaire. Donc, voilà, ça me fait plaisir de vous partager ça. Juste avant de commencer, je tiens à remercier les partenaires du balado. Donc, cette année, ils sont au nombre de 4, puis le premier d'entre eux, c'est l'incontournable Dubois Agri-Innovation, qui est le partenaire principal du balado. Un autre des partenaires du balado, c'est bien entendu l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique, que je suis vraiment fière d'avoir comme partenaire. Puis, je ne sais pas si vous le saviez, mais leurs élèves à la ferme école du cégep de Victo ont commencé quand même récemment leur saison. Puis, c'est vraiment un moyen pour eux de mettre en application les notions concrètes qu'ils ont apprises. Puis, cette année, en fait, je pense que ça c'est quand même le fun de le souligner, là, les 4 principales responsables de la ferme école, ben, c'est 4 femmes qui lèguent leur savoir, notamment à une relève qui est aussi de plus en plus féminine. Fait que je pense que c'est quand même cool de le nommer. Voilà, c'est fait. Sinon, ben, il y a aussi Climax Conseil qui est là depuis le début, puis qui, genre, sur la ferme, nous fait juste vraiment sentir rassurés, qui nous donne des conseils à la fine pointe, puis qui nous permettent d'obtenir le maximum de ce qu'on veut aller chercher de nos sœurs. Donc, c'est des conseils indispensables pour vraiment aller chercher la pleine rentabilité et la pleine satisfaction de notre production en serre. Je pourrais pas plus chaudement vous les recommander. Et pour terminer, il y a bien entendu les équipements de civière qui sont, ben, sans aucun doute, des indispensables sur la ferme. On utilise les outils des équipements de civière à tous les jours. Puis pour nous, ben en fait, c'est des outils qui sont extrêmement solides. C'est sûr que c'est du monde qui ont vraiment à cœur la satisfaction de leur clientèle. Puis nous, notre ferme, en fait, le modèle vraiment est construit autour de leur équipement. Donc c'est ça. C'est un incontournable, puis je vous le conseille aussi chaudement. Voilà! Donc, c'est dit. Sur ce, je vous laisse écouter l'entrevue. J'espère que ça va vous plaire. Puis, le prochain épisode, n'oubliez pas, il est le 1er octobre. Donc, c'est ça. Je vous souhaite vraiment un bel été. Puis, j'espère que vous êtes en forme. Bonne écoute! Allô, Dominique.
Salut, Corinne.
Comment ça va?
Je crois rêver. Et toi?
Oui, moi aussi. Bon, écoute, je suis contente de te parler dans tous les cas aujourd'hui. Et le but de mon entrevue avec toi, c'est de savoir quelle est ta vision de la diversification de l'autonomie alimentaire que peut avoir un maraîcher. Dans le fond, nous, les maraîchers, on est dans une situation où on a déjà accès à une terre, à des infrastructures, on s'entend plein de temps sur notre terre. C'est comme si on avait déjà accès à un bon lot de ressources pour aller vers une meilleure autonomie alimentaire ou du moins une plus grande diversification. J'aimerais ça savoir, selon toi ou selon, de ton point de vue, outre la qualité des produits qu'on peut aller chercher en faisant ça, c'est quoi les autres avantages qu'on peut avoir en tant que maraîcher à aller chercher une plus grande autonomie alimentaire?
L'autonomie alimentaire, c'est intéressant pour tout le monde. Je pense que l'autonomie alimentaire totale, c'est utopique. Ce qu'il faut chercher, c'est à tendre vers une autonomie alimentaire la plus complète possible. Je pense, en fait, qu'on devrait tendre vers une autonomie élémentaire la plus grande possible. Ce que j'entends par là, c'est se loger, se nourrir, se vêtir. Quand les gens me parlent d'aller en agriculture, là, c'est sûr qu'on fait la distinction maraîchage / élevage animal. Je pense que la ferme autonome d'antan, puis la ferme autonome d'aujourd'hui, ça serait un écosystème nourricier le plus complet possible. Je pense que juste le maraîchage ne permettra pas à qui que ce soit de passer l'hiver au Québec. Moi, ici, à Sainte-Lucie-des-Laurentides, en zone de rusticité 3A, à 500 mètres d'altitude, il y a 6 mois d'hiver, 6 mois d'été. Les légumes intéressants qu'on récolte, ils poussent dans une serre de 1000 pieds carrés. Donc, ce qu'on fait dehors, nous, c'est encore de l'ordre de l'expérimentation. On voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas. Je pense que quelqu'un qui est déjà familier avec le maraîchage, évidemment, part avec une longueur d'avance, mais de ce que je vois, moi, de la difficulté d'être rentable, là, c'est ça, il faut faire la distinction entre se nourrir puis gagner de l'argent. Dans une optique où on veut se nourrir, puis c'est de ce point de vue-là souvent que j'explique aux gens ce que je propose, c'est-à-dire que ceux qui s'intéressent à l'agriculture, ce que je leur propose, moi, c'est d'abord d'installer quelque chose qui subvient à leurs besoins. Donc, tu sais, si tu t'installes sur quelque chose où tu fais des petites monocultures, finalement, de 2-3 légumes, ça va être évidemment essentiellement pour le commerce. Bon, tu vas en manger, mais tu te leurreras pas à penser que tu es vraiment en train d'assurer une autonomie intéressante, là, multidimensionnelle. Donc, je pense que si tu commences par considérer ta petite ferme comme quelque chose qui doit d'abord te nourrir toi, tu vas établir quelque chose sur lequel tu peux retomber, quelque chose qui assure une subsistance concrète, minimale. Là, tu sais. Puis après ça, je dis aux gens, regardez ce avec quoi vous avez le plus de facilité, puis c'est peut-être là que vous voudriez mettre en marché vos surplus dans ce que vous avez découvert qui poussait le mieux, ce avec quoi vous étiez le plus efficace. Là.
Mm-hmm. En fait, mettons, dans notre cas, nous, bon, on a une ferme maraîchère à visée commerciale. On gagne notre vie de ça. En fait, ma question, c'est plus quels sont les gains, les avantages à, une fois qu'on a ces sous-là, venir financer, on va dire, une forme ou une autre d'infrastructure qui nous permette d'avoir une plus grande diversification de nos aliments qui sont autoproduits pour nous, pour la famille. Dans un premier temps, tu sais, c'est sûr que nous, on fait des sous avec la vente de nos légumes. Ces sous-là, on les transformerait en partie par des méthodes pour arriver à une plus grande autonomie alimentaire, là, notamment on peut penser, comme c'est écrit dans ton livre, là, pour les poules, les poulets, les chèvres. Je pense que c'est un peu ça, un bon départ, ça pourrait être de penser à cette forme d'autonomie-là.
Absolument. Moi, je pense que ce que je suis en train d'essayer de créer ici, ce sont des jardins nourriciers pour la volaille. Ce qui m'écœure le plus dans ce que j'essaie de construire, c'est ma dépendance à la moulée. Donc, j'essaie de la réduire au maximum, mais pour plusieurs raisons, la moulée, c'est le point faible de notre écosystème nourricier. Cela dit, la volaille est omnivore. Hein? Donc, moi, ce que j'essaie d'installer, finalement, c'est un système qui fonctionnerait en vase clos. Donc, comment est-ce que je fais pour nourrir mes animaux avec les moyens du bord? Bien, pour les volailles, c'est ce que je suis en train de développer puis que je trouve très, très excitant. Donc, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme cultivar? À l'époque, hein, les colons ne donnaient pas aux vaches du foin l'hiver, là. C'était des légumes racines, donc les betteraves, les panais. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut installer, nous, qui n'a pas besoin d'être sexy, hein, que les ravageurs peuvent se servir tant que la plante ne meurt pas, on est correct. Donc, la fameuse bétacarde, là, dont les paniers bio regorgent tout le temps, puis avec laquelle les gens savent plus ou moins quoi faire, puis avec raison, entre toi puis moi, là, je veux dire, c'est pas pire, mais à un moment donné, hein? Donc, si on a toutes sortes d'affaires comme ça, des saisonniers comme la bétacarde, comme différentes plantes plus rustiques, la bardane, la sclépiade, des affaires qui pourraient pousser, ou même des persils qu'on laisse monter tout le temps en graines, donc qui deviennent un peu vivaces. Donc, tu sais, je ne ferais pas pousser des poivrons et des aubergines pour la volaille, là, tu sais, ni des tomates, ni des carottes, mais j'irais avec, tu sais, la bardane, c'est une sorte de carotte panette cheap qui Dieu sait, est assez tenace. Donc, ça serait, moi, le côté excitant d'un mariage maraîchage élevage, ça serait vraiment de travailler ça. Est-ce que tu fais des grosses buttes? Parce que quand tu as des animaux, tu as beaucoup de t'as du fumier. À ça, tu mélanges du carbone. Ma source favorite, c'est la feuille morte hachée, parce que la paille, c'est quand même compliqué à produire. Les graminées, c'est quelque chose dont les maraîchers se prévalent pas, parce que hein, tu n'en vois pas de légumineuses, de grains. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas dans les marchés publics. Puis souvent, c'est ces choses-là qu'il y a dans la moulée des poules. Fait que le soya, toutes ces affaires-là. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt penser à des plantes qui créent beaucoup, beaucoup de matière. Par exemple, le tournesol, le maïs, puis qu'on mettrait entière dans une espèce de gros blender qui reste à développer, je pense, surtout si tu ne veux pas avoir de tracteurs ou d'affaires dispendieuses. Donc, un espèce de gros blender qui fait que tu mets le plant de maïs ou de tournesol entier, la bétacarde, les ci, le ça, tout ce qui pousse bien, puis tu te fais une espèce de grosse moulée omnivore. Puis là, bon, il faudrait voir ce qui manque, mais ce qui est beau avec des animaux, la volaille a cette intelligence naturelle-là d'aller chercher ce qui lui manque quand tu lui en donnes la liberté puis la possibilité.
Est-ce que toi, tu as constaté des méthodes d'intégration ingénieuses mettons, de la volaille ou des chèvres au sein d'une production maraîchère?
Non. Je veux dire, sûrement que j'en ai vu. En général, on assiste à des solitudes parallèles. Bien rares sont les maraîchers que je connaisse qui ont fait plus qu'intégrer quelques poules pour avoir des œufs, puis j'ai l'impression qu'ils leur achètent de la moulée. J'ai l'impression que ce modèle-là dont tu parles, c'est un modèle qui était très répandu au début du siècle dernier, puis qui s'est éteint quand on a voulu professionnaliser l'agriculture, la spécialiser, ce qui s'est résumé en fait à dire on va faire une affaire en grosse quantité. Tout ça pour dire que, justement, là, quand t'as de l'animal et du végétal, il y a un cycle beaucoup plus naturel qui s'installe. C'est le cycle du justement des fameux ruminants qui se promenaient sur les prairies, puis qui mangeaient, puis qui déplaçaient les semences, puis qui étalaient leur azote naturellement. Et puis aussi, c'est l'azote, quand ça vient d'un fumier entier, c'est pas pantoute la même affaire que de l'azote que tu vas, comme de l'actisol là, que tu vas saupoudrer sur tes affaires. C'est des agrégats beaucoup plus complets qui contiennent pas juste de l'azote puis qui se décomposent lentement. Puis en tout cas, moi, dans ma serre ici, ma serre potagère de 1000 pieds carrés, je rentre mes poules très exactement du 1er novembre au 1er mars. Au 1er avril, depuis 5 ans, les poules rentrent. À chaque semaine, je dépose 10 kilos de feuilles mortes hachées sur le sol de ma serre qui est installée en plein sol, 18 pouces de terre paysagiste qui avait été dompée là-dedans au tout début. Mais là, depuis 5 ans, tout ce que cette terre-là a comme amendement, c'est les fientes des poules qui se mélangent aux feuilles mortes que je dépose là. Évidemment, là où je triche un peu, c'est que je donne un peu de moulée bio à ces poules-là. Puis évidemment, dans cette moulée-là, il y a de la richesse qui va se retrouver dans les fientes, là. Mm-hmm. Mais bref...
Mais ce que tu expliques, c'est un bon exemple. C'est un bon premier pas. Mettons qu'on y va, là, qu'on adhère à cette philosophie du cycle fermé, mais qu'on veut commencer quelque part. Je trouve que l'exemple que tu viens de donner... C'est un bon premier pas. Est-ce que tu en as d'autres, des exemples comme ça?
Les trucs comme ça, faciles, évidents, il n'y en a pas tant que ça. Dans mon livre, je vous dis tout ce qui se passe. Il faudra aller voir là, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je veux dire, il y a une variété de petits trucs que je développe, la manière dont je ressème. Mais je pourrais pas dire que j'ai beaucoup là, comme ça là, de highlight là, okay, évident
mais à partager. Je vais y aller avec une autre forme de question. Si on a le choix entre commencer avec des poules pour les œufs, des poulets pour la chair ou de la chèvre pour le lait, ouais. Par quoi on devrait commencer selon toi? C'est quoi le plus facile, le moins à la limite coûteux? Le poulet. C'est ça qui demande quoi? Le moins de ressources, le moins de temps? Pourquoi le poulet?
Parce que le poulet, dépendamment de sa génétique, c'est quelque chose qui s'installe au printemps ou au début de l'été puis qui est fini à l'automne. Donc, les poules, tu les gardes à l'année, les chèvres, tu les gardes à l'année, pas les poulets. Alors, les poulets, si toi, tu es un maraîcher qui aime avoir un break là, entre novembre puis février, là, les poulets, ils vont dans le congélateur à ces dates-là. Là. Alors que les poules, il faut que tu continues. Bon, moi, les poules, je les ai mis dans la serre pour régler, entre guillemets, le problème du bâtiment d'hiver. Donc, faire hiverner les animaux, c'est évidemment ça le défi, parce que contrairement aux légumes qui, eux, sont morts puis qui sont dans la chambre froide à ce temps-là de l'année, les animaux, eux, qui ont besoin d'être entretenus pendant l'hiver, tu vas avoir des problèmes avec l'eau, qu'il ne faut pas qu'ils gèlent. Puis les animaux, eux, sont très résistants. Ils n'ont pas de problème avec l'hiver. C'est sûr que pour les ruminants, il va falloir que tu aies trouver un moyen d'engranger un peu de foin. Côté ruminant, la chèvre est plus petite, donc elle mange moins. Donc, c'est un gros avantage aussi. Là, la chèvre, tu tombes dans un autre domaine complètement d'autonomie. C'est merveilleux. Tu as du lait, tu peux faire du fromage, du yogourt.
C'est une acidité, je veux dire, ça dépend. La chèvre. C'est ça?
L'hiver aussi, quand tu as pu attraire, c'est moins. Mais c'est sûr que, je veux dire, à la limite, à partir du moment où tu as un chien, si tu ne vas pas le mener dans un chenil, tu es pas mal pogné chez vous. anyway. Mais bon, mm-hmm. C'est sûr que faire garder un chien par un ami, faire garder une chèvre, l'hiver, c'est pas un. Moi, le matin, le matin, moi, ça me prend 10 minutes m'occuper de mes chèvres, mes poules, mes chiens. Le soir, 5 minutes, là. Quand je dis poule, poulet, chèvre, c'est parce que là, t'as de la viande, t'as des œufs, t'as du lait, t'as du fromage. Donc, tu sais, t'as vraiment un ensemble d'éléments. Ouais. C'est ça, t'es bien parti. Une vache, c'est pas raisonnable, là. Évidemment, c'est gros, ça mange énormément, ça fait du fumier, quelque chose de rare. Puis le fumier de vache, la bouse de vache, c'est pas la même histoire que le crottin de chèvre qui est un peu comme les chevreuils, là, tu sais. Donc là, la vache même, elle va s'asseoir là-dedans, c'est plus de job juste à laver avant de traire. Là. Fait que c'est quelque chose.
Pourquoi est-ce que tu n'as pas abordé la possibilité du cochon?
Ben, le cochon, ça va venir éventuellement. Le cochon, c'est le même problème que la volaille. C'est que c'est pas un ruminant, le cochon. Donc, tu peux pas l'élever au pâturage au sens qu'il va s'en nourrir autant qu'une chèvre. Le cochon, il va manger un peu d'herbe, mais il va surtout vivre au pâturage. Ceux qui les élèvent vont leur donner des bonnes quantités de moulées. Ils vont essayer d'être chum avec quelqu'un qui a des pommes, des carottes. Fait que bon, un cochon, c'est cochon. Ça mange comme un cochon. C'est sûr que ça va boire du petit lait. Donc, l'idée à l'époque d'avoir un cochon, c'est que le petit lait qui était généré par la production de fromage fait avec le lait de la vache, parce que la vache est venue au début parce qu'on connaissait moins la chèvre aussi, hein, c'est aussi niaiseux que ça, là. La chèvre, c'est quelque chose de beaucoup plus européen comme animal, puis même africain, puis tout ce que tu voudras, là, comme autre communauté là, dans le monde, parce que ça se satisfait de une chèvre, ça va aller gratter dans le bois un peu partout ce qu'elle peut trouver, elle va manger des petites pousses de bouleau, de trempe. Une vache, ça veut là, tu sais, du gros trèfle, de la luzerne, ça veut des affaires plus grasses. Tout ça pour dire que le cochon, moi, j'y vais très tranquillement. C'est ce que je propose aux gens de faire d'ailleurs, d'y aller très lentement. Puis je ne suis pas rendu au cochon parce que je n'ai pas encore la place. Donc, oui, ça va. Tu sais, c'est pas vrai que ça défriche tout seul, là. Je veux dire, ça fout le bordel, c'est ça que ça fait, là. Donc, si tu mets, bon, des clôtures, il faut déjà que ça soit un peu nettoyé. Puis là, oui, ça va tout sacrer à terre, mais ça, ils vont pas manger les arbres, là. Donc, ils vont les déraciner puis les faire tomber dans le meilleur des cas. Mais je veux dire, faut que tu t'en occupes, là. Puis, faut que tu les abreuves, ça boit beaucoup d'eau, puis tu vas parler à n'importe qui a commencé, être capable de monter une abreuvoir qui ne vont pas sacrer à terre puis détruire quotidiennement, c'est un défi. Fait qu'il faut que tu amènes de l'eau souvent là. Puis, puis le cochon, évidemment, il faut l'abattre. C'est quelque chose avec lequel les gens sont moins familiers. Moi, je suis familier avec ce geste-là, mais l'infrastructure que je voudrais avoir, moi, pour l'abattre dans les règles de l'art, puis récupérer le sang, puis récupérer tout, puis tout manger, ce n'est pas une infrastructure que j'ai encore. Ça demande, tu sais, un bac d'échaudage, ça demanderait à la limite un tracteur pour être capable de le soulever, puis tu veux dire, c'est une plus grosse masse à gérer. Alors que le poulet, l'infrastructure qu'il faut pour l'abattre et le manger est beaucoup plus simple. Mais le cochon, comme la poule d'ailleurs, va c'est sûr que si t'es un maraîcher qui est capable de générer beaucoup de pertes, d'avoir beaucoup de pas beaux légumes, mais c'est sûr qu'il va les manger.
Oui, mais dans notre cas, par exemple, il y a une grosse partie des planches quand même qu'on retire tous les végétaux après pour pouvoir implanter presque la journée même, là. Dans ce cas-là, oui, on en a quand même une masse de végétaux, tu sais, j'imagine qu'on pourrait quand même nourrir des animaux avec ça, là, que ça serait vraiment un bon usage, là.
Exact.
J'aimerais ça qu'on en revienne plus aux trois animaux dont tu parles dans ton livre plus particulièrement, puis que tu me dises lequel est-ce qui exige le moins d'installation. Comme, dans le fond, tu parlais des poules que tu peux aller mettre dans ta serre.
Comme je te disais, le poulet, c'est le moins compliqué, surtout quand on l'élève en cage mobile. Ça, j'en parle dans mon livre en long et en large. Donc, le poulet, c'est le plus simple.
Il y aurait les cages mobiles là, pour les poulets, là. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait moyen d'intégrer ça dans nos engrais verts?
Moi, je te dirais que la luxuriance puis la vivacité de mon pâturage, ça a été mon obsession pendant quelques années pour que, justement, quand tu déplaces la cage après 24 heures, ce qui reste en arrière a été abîmé, a été consommé, mais ça se relève en dedans de 2-3 semaines. Fait qu'il faut voir que les engrais verts, dépendamment c'est quoi, là. Mais les engrais verts, c'est pas des vivaces en général, fait qu'il faut voir s'ils vont se relever. Si toi, ça dépend aussi pourquoi tu fais pousser des engrais verts. Si c'est pour les redonner à la terre, si c'est pour fixer de l'azote avec des poids, des trucs de même. Je veux dire, les poulets, eux autres, ils vont leur donner une claque. Cela dit, ils vont déposer eux-mêmes de l'azote. Fait que, à la limite, tu n'as peut-être pas besoin d'engrais verts aussi puissantes. Sauf que sur des planches, tu veux des vivaces. Tu veux des annuelles, tu veux pas des vivaces. Fait que tu veux mettre de l'avoine, du poids, des affaires comme ça. Tu veux pas des trucs qui vont repousser, évidemment, parce que toi, tu veux planter tes propres bébelles, là. Donc, ça serait vraiment à voir. Je vais me dire, évidemment, si la cage, moi, la mienne, est un 8 pieds par 8 pieds, genre 2,4 mètres par 2,4 mètres. Donc, dépendamment de la largeur de tes buttes, ça peut aussi être à moitié sa butte, à moitié par terre. Ça dérange pas vraiment. C'est sûr que la cage, il faut qu'elle soit sur une surface plane.
Mm-hmm. Mais tout le monde ne fonctionne pas avec le système de buts non plus, là. C'est ça, il y a quand même beaucoup de monde qui fonctionne à plat. Chez nous, par exemple, on n'a pas de buts, là. Donc ça serait pas un défi, là, de la bouger, là.
Ben, je veux dire, il n'y a rien comme essayer. Les poulets vont déposer passablement de fiente en 24 heures parce que c'est jour et nuit. Faut ajuster peut-être le nombre de volailles. Moi, quand j'en ai une vingtaine, je déplace la cage une fois par jour. Si j'en mets 36, qui est le maximum, je la déplace deux fois par jour. Ça dépend aussi de la génétique que tu élèves. Donc, moi, j'élève de la rustique que je fais éclore ici. C'est des poulets qui sont moins gros, donc qui génèrent moins de fiente, puis qui vont être plus grugeux.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, ils vont être plus. Ils vont brouter beaucoup plus. Comme je te dis, ça peut être une bonne idée. Il faut juste voir ce à quoi tu t'attends de tes engraveurs parce que ça se peut qu'ils ne se relèvent pas d'un passage de la cage mobile, tout dépendant mm-hmm. c'est quoi puis c'est à quel âge. Moi, je te dirais que sur mon pâturage, avant de bouger ma cage, je donne même un coup de weed eater, là, de taille bordure, okay. Sur la surface. Vers laquelle je transitionne ma volaille quand cette surface-là a de l'herbe qui est trop haute. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les végétaux, c'est que la courbe de croissance, souvent, elle va être vraiment handicapée si tu coupes plus que la moitié de la masse foliaire d'une plante qui est arrivée à maturité. Donc, tu sais, moi, je coupe à moitié avec le Weed Eater, comme ça, quand le lendemain, on s'en va, la repousse est forte. Ça, j'en parle beaucoup dans mon livre. Je parle de hauteur à ne pas dépasser, des hauteurs de coupe en bas desquelles ne pas descendre pour ne pas justement avoir un impact à trop long terme sur la repousse. Donc, les racines, eux autres, sont capables de générer de la repousse si tu n'as pas enlevé plus que la moitié de la masse foliaire, là. Donc, dépendamment de ce que tu aurais comme engrais vert, tu verrais.
Bien, je pense au seigle. Tu me fais penser au seigle. Par exemple, là, on pourrait, je ne sais pas, on a une parcelle X où est-ce qu'on a des crucifères hâtifs, puis on met du seigle, par exemple, après, on va dire, mi-juillet, début août. Puis, on fait en sorte que dans notre rotation, le moment où on réimplante quelque chose d'autre, c'est, on va dire, en juillet, justement, de l'année suivante. Donc, on pourrait laisser un seigle qui toffe l'hiver. Puis, si on ne le fauche pas trop bas, ça permettrait peut-être de faire ce cycle-là de conduite du poulailler mobile, là.
Dedans. Absolument, absolument. Moi, dans ma réalité, il faut que je puisse repasser au même endroit là, après une quinzaine de déplacements. Donc, j'ai besoin d'une vivace, qu'une bonne repousse, ce qui serait probablement pas le cas du seigle pour moi, mais pour vous, si tu as une surface suffisamment grande pour que la cage puisse avoir assez de place pour. J'ai l'impression, moi, qu'une fois que tu serais passé 24 heures à un endroit, je ne suis pas sûr que tu pourrais repasser là une autre fois, là, à moins que je me trompe. Là. Avec le poulet, au début, la manière la plus facile d'élever, le plus facile, donc on disait que le poulet, c'était le plus facile. La manière la plus facile de l'élever, c'est d'acheter ses poussins dans un couvoir. Moi, j'ai mis une croix là-dessus pour une variété de raisons. Je ne veux plus faire ça, mais bon, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Vous achetez des poulets qui sont systématiquement des Ross, qui sont vaccinés, puis mm-hmm. qui sont des poulets à croissance rapide et qui vont transformer toute la moulée que tu leur donnes en gras et en chair très rapidement. En 50 quelques jours, tu as un poulet de 2 quelques kilos. Il est très bon, il est très tendre, il est très gras parce que c'est un poulet très jeune et gras. Évidemment, c'est super bon.
Fait qu'on va dire en deux mois et demi, c'est possible en les bougeant à chaque jour. Là, après ça, il y aurait un calcul à faire, à savoir comme combien d'espace est-ce que ça pourrait nous prendre, est-ce que ça pourrait rentrer sur une parcelle de X par X. mais ça serait, en tout cas, ça serait intéressant. Ben oui. Je sais pas si tu vois aussi que je veux aller, mais on dirait que je cherche à savoir, selon tes connaissances, comment est-ce que nous, on peut arriver à valoriser ce qu'on a déjà. Tu sais, on a déjà des engrais verts, on a déjà des serres, tu sais, ces deux affaires qu'on vient de nommer. Ouais, c'est ça, on dirait que je cherche à savoir comme facilement au cœur des systèmes qu'on a déjà, comment on fait pour diversifier sans trop se casser le bicycle, puis sans avoir à trop créer d'installations coûteuses supplémentaires. Mm-hmm.
Bien, c'est sûr, là, c'est le cassage de bicycle qui est la question clé, parce que la plupart des maraîchers ont certainement un horaire bien rempli. Moi, je pense que c'est de voir les zones qui sont inexploitées. Donc, si ta serre est vide de tel mois, c'est sûr que tu peux mettre des poules dedans, puis tu n'as pas besoin vraiment de modifier. Ça dépend, c'est sûr, de la manière dont tu travailles dans ces serres-là. Là. Moi, je suis en plein sol, donc c'est vraiment plus comme de la terre. Là. Donc, c'est plus facile de faire le système. Mais chose certaine, au mois d'avril, quand je sors les poules puis que je passe un coup de grelinette, il n'y a pas d'odeur là, d'ammoniac là, qui te prend au nez. Donc, il y a vraiment quelque chose, même pendant l'hiver, qui permet à la terre de d'absorber les fientes puis les feuilles de telle sorte que tu as quand même un agrégat relativement fin après 3-4 coups de grelinette, tu sais.
Vous allez sûrement récolter bientôt. Procurez-vous les meilleures contentes de récolte chez Dubois Agrinovation. C'est le partenaire principal de la vie maraîchère. La plupart de leurs cuves et paniers sont des grades alimentaires et conformes aux réglementations en vigueur pour y entreposer des fruits et légumes. Les contenants plastiques sont faciles à nettoyer et à empiler, tout en diminuant le risque de moisissures et de maladies. Découvrez la section dédiée aux contenants au www.duboisag.com. www.duboisag.com et profitez de la livraison gratuite sur vos commandes de 200$ ou plus en ligne. Au niveau des fientes l'hiver dans ta serre, est-ce que tu as déjà essayé de calculer comme ça pouvait équivaloir à quoi comme augmentation de la fertilité?
J'ai fait des analyses de sol. C'est très, très compliqué. Parle-en à n'importe quel agronome, il va avoir de la misère à te répondre. C'est pas pour rien que l'azote dans les tests de sol, c'est pas un élément sur lequel on se base ou même qui est présent en général. La volatilité de tout ça, la manière dont ça... Moi, je fais le test empirique de l'essayer, puis je ne vois pas d'indicateur de surdose d'azote. Puis Dieu sait que c'est pas évident non plus quand tu lis là-dessus qu'est-ce qui serait un indicateur. Beaucoup de masse foliaire, mais non, on n'a pas de brûlure ou on n'a pas des pires symptômes d'un surplus d'azote. Tout se passe bien.
Est-ce que tu as constaté que c'était quand même uniforme ou c'est pas uniforme? Parce que dans le cas des cochons, j'ai pu constater qu'en général, c'est pas uniforme.
La répartition? Moi, évidemment, je travaille très fort à encourager la meilleure répartition possible. Alors, souvent, si tu as des animaux, ça va être autour des abreuvoirs puis des mangeoires. Alors, moi, je les déplace à tous les jours. Je déplace ma mangeoire puis mon abreuvoir de telle sorte à faire un cercle complet et continu dans la serre. Ensuite, la volaille va déposer autant de fientes la nuit que le jour. Donc, la nuit, elles, ils vont dans une cage mobile que j'ai installée dans la serre. Donc, ils vont passer la moitié de leur temps à faire des fientes. Et donc, ce que j'ai installé en dessous de la cage mobile, c'est une bâche 10x10 sur laquelle je mets aussi des feuilles mortes hachées. Donc, moi, à chaque semaine, je m'en vais, je prends la bâche, je l'enlève, je m'en vais la porter dehors, je fais un ballotin, je vais l'utiliser au printemps. Je remets une nouvelle bâche avec des feuilles mortes sous la cage mobile. Et puis, je prends mes feuilles mortes que je disais tantôt, je mets 10 kilos de feuilles mortes sur la surface de la serre, puis je les éparpille partout. Donc voilà, la moitié des fientes sont exportées à l'extérieur de la serre parce qu'ils sont récupérés sur une couche qui est en dessous de la cage. Puis l'autre portion des fientes, bien, est répartie dans la serre parce qu'ils se promènent partout, entre autres parce que l'abreuvoir puis la mangeoire sont déplacés, mais aussi parce que c'est dans la nature de la poule de se promener puis de gratter. Mais la répartition est parfaite, puis je te dirais que ma texture de sol, après avoir passé la grelinette, c'est vraiment pas des espèces de gros motons effoirés, des galettes. C'est pas des galettes. J'ai vraiment un bel agrégat qui se défait parce que je mets de la feuille morte. Parce que aussi dans la serre, le sol descend pas là, à plus que moins 1. Là. C'est ça la nature du sol, là, surtout quand il est couvert. Je pense que les poules en grattant arrivent mécaniquement. Donc, ce n'est pas un compost chaud, c'est un compost qui appelle froid. Puis moi, c'est un compostage que je dirais mécanique. Donc, c'est vraiment à force de gratter puis de défaire les feuilles mortes qui sont, je le répète, hachées. Hein, donc, ce n'est pas de la feuille morte entière. Ils sont passés par un aspirateur dont le moteur d'entraînement est une lame en métal qui hache la feuille en tout petits morceaux. Alors, quand j'éparpille ça sur le sol, c'est vraiment un tapis de petits morceaux de feuilles.
Mm-hmm.
C'est très important de ne jamais prévoir un enclos fixe pour de la volaille, c'est la pire idée au monde. Là. En fait, pour n'importe quel animal vivant, faire un bel enclos fixe avec une belle clôture en bois fixe, ça va te faire juste un désert d'asphalte, de fiente en dedans de 2 semaines dont tu ne pourras jamais te relever. Donc, quand on a les animaux, il faut accepter d'imiter la nature, d'imiter le mouvement des animaux dans la nature qui est constant.
OK. Puis dans le cas de la chèvre aussi, tu bouges ton enclos?
Oui.
OK.
Ben, en fait, non. L'hiver, évidemment, l'enclos est fixe. Ce que je fais, c'est une litière accumulée. Donc, je substitue le déplacement par un ajout massif de litière. Donc, je vais rajouter du carbone là, de sources variées. Ça peut être, j'aime la litière de papier recyclé qui est faite à partir des chutes de papier de toilette puis d'essuie-tout ou de tout ce que tu voudras dans les papetières là, québécoises. Il y a une compagnie qui ramasse ça, le H puis le vent, puis ça s'appelle Pure Bedding. Je vais mettre un peu de paille, mais comme je te disais, la paille, c'est compliqué, c'est dispendieux, puis je ne serais pas capable d'en produire, fait que j'y vais mollo. Mais j'ai aussi des grands sacs de feuilles mortes hachées pour les chèvres. Donc, l'hiver, je leur fais un nid à tous les soirs, et puis au printemps, bien, on fait un gros tas qui va composter pendant l'été. Mais l'été, ils ont un grand enclos. On en a peu de chèvres aussi. En ce moment, on en a 2. Et puis, à tous les jours, je les amène pendant 1h30 brouter dans un pâturage parce que c'est ce dont ils ont besoin. Donc, quand ils ont brouté 1h30, ils vont ruminer ici, effoirer à quelque part à l'ombre, puis ils vont remâcher en régurgitant ce qu'ils ont absorbé. Donc, moi, j'ai calculé qu'en 1h30, avec un pâturage d'une densité X, ils vont aller chercher tout ce qu'ils ont besoin en matière sèche. Et puis là, puis les chèvres, l'avantage aussi, c'est qu'ils dorment 6 à 7 heures par nuit. Donc, la nuit, ils sont couchés puis ils dorment. Fait qu'ils sont pas en train, justement, de chier constamment, puis la quantité de nourriture qu'ils mangent est raisonnable. Donc, c'est l'hiver en ce moment, tu vois, c'est 3% de leur masse. Donc, une chèvre de 50 kilos va manger 1,5 kilos de matière sèche dans la journée, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est facile de stocker dans un endroit très ordinaire tout ce qu'il faut pour assurer l'alimentation de la chèvre pendant les 6 mois que dure l'hiver ici.
Mm-hmm. Hey, j'aimerais ça savoir. J'ai comme l'impression que l'intégration, par exemple, des chèvres dans nos vies de maraîcher, là, l'élément comme limitant principal, c'est le temps. L'été, là, tu parles de 15 minutes pour tout ton cycle d'hygiène et de soins pour tes animaux par jour l'hiver. L'été, ça ressemble à quoi, mettons, pour 2 chèvres? Je suis pas mal intéressée à en avoir éventuellement, fait que...
Oui, mais c'est pas beaucoup plus long. C'est le même cycle. Après ça, c'est de décider d'où vont venir d'où viennent leurs protéines, là, d'où vient leur matière sèche. Donc, le matin, je leur en donne un peu pour les faire patienter avant la traite. Puis après ça, bon, ils se promènent. Mais évidemment, le 90 minutes où moi, je les accompagne, c'est un 90 minutes où je m'assois puis je lis ou j'écris. Je veux dire, à quelque part, c'est une sorte de break. Si tu n'as pas ce temps, ce 90 minutes-là, parce qu'on le sait, l'été, tout arrive en même temps. Là, hein? Tout est prêt en même temps. Puis là, c'est la course complètement folle. Donc, les chèvres, ce serait possible d'avoir un enclos, j'explique comment faire les calculs, d'avoir un enclos mobile, donc avec une clôture électrique mobile. Les chèvres, c'est très docile, surtout si tu as des chèvres laitières puis que tu n'as pas de bouc complètement déchaîné. Tu peux aussi utiliser la technique du poteau puis de la laisse rétractable. Donc, tu installes un poteau à quelque part, puis tu t'installes la chèvre avec une laisse rétractable. Donc, elle s'enfiroie pas trop, elle s'enfirlicote pas en dedans de 3 secondes sur son poteau. Puis ça lui donne un rayon d'action très intéressant. Alors, en allant les voir 2-3 fois pendant cette heure et demie-là pour déplacer le poteau ou pour voir si tout le monde va bien, tu n'as même pas besoin de suivre avec de l'eau parce qu'en 1 heure et demie, en mangeant du pâturage qui est constitué à 90 % d'eau environ, tu sais, ils sont pas assoiffés. Puis quand ils rentrent à la chèvrerie, là, ils peuvent boire autant qu'ils veulent. Donc, c'est possible de ne pas être physiquement là avec elles. Moi, je les amène dans une clairière où il n'y a pas de danger qu'ils mangent que tu ne veux pas. Ça serait le danger dans un environnement de maraîchage. Tu ne veux pas qu'ils s'échappent puis qu'ils dévorent, évidemment, toutes tes plantules puis tes affaires. Donc, c'est possible là, de calculer l'espace dont tu vas avoir besoin puis de séparer cet espace-là en quadrillant cet espace-là pour donner accès à tous les jours à un carré neuf, ce qui donne aux chèvres une alimentation la plus riche possible, puis qui permet à la parcelle de la veille de se reposer pendant 16, 17, 18, 20 jours, dépendamment là, de la pluie puis de tout ça. Mais c'est sûr que la chèvre ici, c'est évidemment l'élément le plus embarrassant, si tu veux. C'est des animaux qui ont besoin de plus d'attention là, que la volaille, mais je dis ça, puis en même temps, le matin, c'est pas le cas. Puis dans la journée, on va y voir, mais on s'en réoccupe pas, là. Donc...
Okay.
Mais il faut que tu ailles un bouc pour les. Tu sais, si tu veux du lait, il faut qu'il y ait un bouc. Puis là, un bouc, c'est plus compliqué. Puis là, quand il y a des chevreaux, bien, il faut que tu apprennes à faire quelque chose avec ces chevreaux-là. Là.
Mm-hmm. Oui, ça vient avec la suite là, de l'apprentissage, là, c'est sûr. Mettons que j'essaie de pousser la conversation un petit peu plus loin dans les façons dont on pourrait valoriser ce qu'on a déjà. Tu sais, de ce que je comprends, c'est comme un peu nos plus belles ressources à nous, selon toi, non, pour amener une vie animale au travers de tout ça, c'est de valoriser nos espaces non valorisés pour eux autres.
Oui, bien, comme je disais, le « moi, veux pas », ce qui est au centre de mes préoccupations, c'est le fameux pâturage dont je te reparle sans cesse. Donc, si toi, tu as des espaces qui sont compatibles avec ce genre de culture-là, bien, c'est sûr que sur ces espaces-là, tu peux élever des poules, des poulets puis des chèvres. Donc, c'est de voir ces parcelles de pâturage-là comme étant des cultures vivaces qui sont utilisables, transformable en aliments par ces animaux-là. Tu sais, sur la terre, il y a une grande proportion de nos terres cultivables qui ne peuvent supporter que du ce qu'on appelle du grazing, là, c'est-à-dire du broutage.
Si, par exemple, ils ont un intérêt à valoriser ces espaces-là, tu sais, de quelle superficie est-ce qu'on parle dans ce que tu as pu observer, là?
Ben moi, tout ce que je t'ai dit que je fais, je le fais sur 1 hectare, là. C'est la fameuse unité d'un hectare, là.
Ben, je pense ça qu'il y en a pas mal de maraîchers qui ont probablement 1 hectare de friche, de pâturage, de libre. Là.
Ben oui, mais je veux dire, le pâturage, c'est merveilleux aussi pour attirer les pollinisateurs, pour conserver l'humidité sur chez vous. C'est une culture hâtive, elle commence tôt, elle finit tard. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, surtout si tu en as un qui est très, très diversifié, où tu laisses venir la chicorée, pas trop de bardane, là, parce que c'est fatigant, mais bon, tu sais, une variété d'affaires, tu as des légumineuses là-dedans, c'est qui sont le plantain, le trèfle, donc je veux dire, moi, je pense qu'il faut voir le pâturage comme une culture, qu'il faut qu'il soit peut-être plus grande qu'une culture très, très dense, mettons, de carottes, mais qui demande moins de soins, puis sur laquelle tu peux retomber. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre toutes ses œufs dans le même panier. Je pense qu'il faut commencer par considérer que ça nous prend tellement de temps, l'agriculture, c'est tellement demandant que si on n'est pas capable de s'offrir un menu varié juste pour soi-même, on va s'épuiser à essayer de nourrir les autres, puis on va se retrouver avec, après ça, un système qui ne nous nourrit pas, fait que c'est-à-dire avec rien pantoute. Fait que moi, je vois beaucoup de maraîchers s'épuiser à vendre du produit brut, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait des grandes quantités, parce que les gens ne sont pas prêts à payer énormément. Je pense que tu peux voir les œufs comme un produit d'appel, hein? Donc les gens vont venir vers toi, puis acheter après ça tes légumes plutôt que ceux de l'autre dans un contexte de marché fermier. Mais je pense que si on se met soi-même en priorité, son propre menu, sa propre alimentation, son propre panier, si tu veux, si tu nourris toi-même, bien là, déjà, tu as une base. Puis, en théorie, tu devrais avoir l'impression que tout ça fait déjà du sens. Mm-hmm. Après ça, c'est à toi de choisir ce que tu vas mettre en marché, mais la plupart réalisent qu'il faut faire attention, ça peut être épuisant. Je pense que il y a un équilibre. Encore là, on se donne un objectif. On veut générer combien par année?
Ouais.
OK. Puis là, on divise ça en 8. Puis comme je te dis, c'est à coût de 3-4 000 piastres qu'on se rend au fameux 30 000 piastres, puis qu'on est gros dur. Je veux dire, si on veut boire du vin, on en boit. C'est juste que quand t'es claqué, ça te tente juste pas.
Ça te cogne.
Fait que, tu sais, on n'est pas là des party animals. C'est sûr qu'on se couche tôt puis on se lève tôt. Mais en même temps, je me sens pas pris à la gorge dans un système où on vend des grandes quantités de produits très, très peu dispendieux.
Mm-hmm. Mais c'est ça. Je pense que tu as été à la recherche avec ta conjointe d'un équilibre entre l'autosuffisance et une forme de commercialisation. C'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a quand même du monde que ça pourrait les inspirer dans leur démarche, qui est à prime abord maraîchère, mais justement, de trouver une forme d'équilibre, peut-être y aller un petit peu plus dans l'autosuffisance, un petit peu moins dans la commercialisation, là. Ouais. Mais que leur base, ça soit... Toi, tu sais, ta base, c'est comme l'élevage. Peut-être que la base de d'autres gens, ça peut être plus le maraîchage, tu sais. Mais ouais. Y aller peut-être pour une transformation, comme tu le proposes.
Bien, c'est que je veux dire, moi, ma base, c'était l'autonomie alimentaire, élémentaire. Puis je te dirais que le maraîchage... Je considère, moi, la production d'une tomate beaucoup plus complexe, incertaine et fragile que la production d'un œuf ou d'un litre de lait. Donc, tu le sais, ça commence en mars. Il peut y avoir bien des affaires qui se passent jusqu'en août. C'est pas compliqué de perdre toute ta production ou arriver à des résultats décevants ou même à des résultats catastrophiques. Avec les animaux, j'ai jamais eu cette expérience. Là.
Mais c'est sûr qu'une fois qu'on contrôle les paramètres, c'est pas pareil, dans le sens que année après année, mettons, nous autres, on n'a aucune difficulté à reproduire les mêmes résultats ou à peu près. Ça vient aussi avec l'expérience, là?
C'est sûr, mais il ne faut pas négliger le temps de mise au monde d'une tomate. Là. Quand on pense qu'un poulet, ça peut se faire en 54 jours, puis que tu finis avec quelque chose d'extrêmement nutritif, quand tu penses qu'une planche de 25 pieds de fèves de soya, ça te donne assez de stock pour faire deux blocs de tofu, mais ça va avoir pris 6 mois parce que ça sèche sur le plan. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc, je pense que l'alimentation, c'est vraiment la diversité qui est la clé. Donc, plus tu as de variété, plus tu te protèges. Comme tu dis, c'est sûr qu'avec l'expérience vient une espèce de possibilité de répéter les affaires, mais avec ce qui se passe avec le climat, les végétaux sont beaucoup plus dépendants du climat, en tout cas, à moins que tu sois dans une serre automatisée, irriguée, chauffée, te le quitte. Le climat a un impact beaucoup plus important sur une culture végétale qu'animale. Cela dit, quand les animaux mangent de la moulée qui elle-même est végétale, tu retournes, tu
redeviens perdant. Le cycle de dépendance continue.
C'est ça. Mais avec un ruminant qui mange du pâturage, le pâturage, je pense que ça fait partie des végétaux les plus résistants puis qui s'adaptent le mieux au climat changeant. Là.
Cool. Ben écoute, c'est sûr que tu encourages les gens qui écoutent à essayer de trouver une petite place du moins sur leur terre pour en mettre du pâturage s'ils ont le temps, parce que d'après moi, c'est ça, plus l'élément limitant que l'espace, là.
Ben établir ton pâturage, ça peut être juste ça que tu fais pendant 2 ans, sans animaux, là. Puis ça, c'est pas la fin du monde, là, tu sais.
C'est ça, ça peut être un bon premier pas, là.
Absolument, c'est le meilleur premier pas de tous. Là. C'est mieux que d'avoir une poignée de poules à qui tu donnes de la moulée Shergain dégueulasse. Là, je veux dire, t'établis quelque chose qui prend du temps à établir. C'est comme planter un arbre fruitier, t'sais. Tu veux le planter au plus sacrant, puis parce que c'est long. Mais c'est ça. Dans le cas du pâturage, vraiment là, travailler le pH de ton sol, c'est ça qui est critique. Là.
Mm-hmm. OK. As-tu des trucs? Juste pour finir, là, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus là, pour établir un beau pâturage.
Ben, si c'est un pâturage sur lequel il y a de la friche puis de la végétation, c'est-à-dire, mettons, des arbres, l'idéal, c'est de couper, de laisser en place, d'attendre l'hiver, puis mettre une bâche là-dessus, puis quand il commence à avoir assez de neige pour pas que ça soit dangereux, t'enlèves ta bâche puis tu fais un feu. Donc là, tu vas avoir tu vas travailler ton sol automatiquement, tu vas faire un beau désherbage, mais en même temps, tu vas avoir de la cendre, tu vas avoir de la potasse, tu vas avoir, en tout cas, tu vas avoir beaucoup de micro-éléments utiles, puis tu vas, c'est comme de la chaux, là, tu vas désacidifier. Sinon, carrément prendre de la chaux dolomitique, puis de l'épandre à l'automne, faire ses propres tests de pH avec un petit pH mètre, là, ça coûte pas cher, puis ça vaut la peine. Puis en général, avec un épandage en surface, en 2-3 ans, tu vas avoir atteint le pH idéal. Vraiment, là, d'y aller comme ça, puis ça aide vraiment à la luxuriance là, du pâturage.
Cool. Good. Ben, je pense qu'on a fait le tour du sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Merci pour ton temps, Dominique. Merci de m'avoir accordé ce temps-là qui nous a donné quand même des bonnes pistes de réflexion, je trouve, là. Autant philosophique que pratico-pratique, là.
Ben, le dire, les deux sont indissociables là, pour le monde qui cherche quelque chose de sensé. Je te dirais, ceux qui veulent plus d'informations sur l'aspect mise en marché, sur notre site web, sur enpleinegueule.com, ils peuvent aller dans la section savoir-faire, puis dans la section lire, il est dans les deux. C'est un document qu'on a mis à jour l'année dernière, qui vraiment t'aide à comprendre l'arborescence législative des permis au MAPAC, puis qui te donne des trucs, puis même beaucoup d'idées. Donc, pour des gens qui se cherchent vraiment des petites idées, comme comment faire un peu d'argent en agro, j'en donne beaucoup. Et puis, des fois, c'est tout ce qu'il faut là, pour aller chercher un 4-5 000 piastres de lousse à l'occasion d'une fête champêtre qui dure 3 jours. Là. Tu sais, l'idée, c'est le sourire, la qualité, le goût, puis le monde va venir manger ce que tu as à leur offrir. Là. Donc, il n'y a rien comme essayer. C'est sporadique comme événement. Puis, il y en a beaucoup au Québec. Donc,
tout est dans l'expérience au niveau de cette forme de mise en marché-là là, dont tu parles?
Oui, c'est sûr. Mais aussi de faire une affaire, comme du monde là, au lieu d'essayer de faire 53 pots. Là. Tu fais une affaire archi-goûteuse, tu as fait goûter, puis le monde en achète, puis that's all. Pas besoin de se monter une gamme de fines herbes. Là. Si tu as un bon pesto unique, ben fais juste ça, puis faisant des grosses beurrées cochonnes grillées avec du pain au levain juteux.
Ça devrait
puis,
partir.
Exact. Alors, good luck!
Cool. Merci, Dominique, pour ton temps. Merci pour ton partage puis ton savoir. Puis
ben, de rien. Merci de l'invitation.
Ça me fait plaisir. On se dit peut-être à une prochaine.
Ah oui, en présentiel.
Ah oui, ça serait trop beau. Peut-être dans quelques années. Dans 5-10 ans, ça aurait.
Je vais venir avec mon book.
Ah, cool. Oui, ben d'ici là, je vais avoir une chèvre, fait que ça devrait être compatible.
Ah oui. Parfait.
Cool. Merci encore.
De rien, bye.